Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manirakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du vendredi 3 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Au Mali, les groupes séparatistes forment une nouvelle coalition pour la défense du peuple de l'Azawad. Rubaya, cité minière de l'est de la RDC, tombée aux mains des rebelles du M23.
La cité de Rubaya et son sol et son sous-sol attisent des convoitises.
Deux militaires nigériens seront jugés pour une attaque accidentelle de drone ayant entraîné la mort de civils dans le nord-ouest. La détermination des journalistes et des médias guinéens à ne pas se laisser museler.
Cette émission qu'on appelle les médias brouillés de Guinée passe tous les vendredis pour que cela constitue le front commun de la résistance à la persécution.
Nous entendrons et aussi les conditions précaires des journalistes béninois en cette journée internationale de la liberté de la presse.
Tous les journalistes vivent comme des prisonniers ambulants. Tout au moins les journalistes qui osent dire des choses qui gênent sont automatiquement poursuivis, arrêtés.
Les défenseurs des demandeurs d'asile au Royaume-Uni s'opposent aux expulsions de migrants vers le Rwanda cet été. Le président Joe Biden réagit aux protestations universitaires sur Gaza. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Les principaux groupes séparatistes qui affrontent les forces gouvernementales dans le nord du Mali ont annoncé qu'ils formaient une nouvelle coalition portant les revendications du peuple de l'Azawad. Selon un communiqué publié jeudi, la nouvelle alliance, appelée Cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, est présidée par Bilal Ag Achérif, une figure des indépendantistes et adversaire historique du gouvernement central. Les groupes armés ont perdu le contrôle de plusieurs localités du nord fin 2023 après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, bastion de la revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l'État central. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères à Ouagadougou en réaction à une déclaration conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni sur les allégations de massacre de civils par l'armée burkinabé. Selon l'agence d'information du Burkina, Ouagadougou conteste le rapport de Human Rights Watch affirmant son engagement envers les droits de l'homme. Les États-Unis vont fournir 55 millions de dollars pour aider le Burkina Faso à faire face à une grave crise humanitaire, a annoncé la chef de l'aide humanitaire américaine, selon Samantha Power. Cette aide répondra aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents, portant le total de l'aide à près de 158 millions de dollars depuis 2023. La situation est critique, marquée par des déplacements massifs et des attaques contre les civils, nécessite un soutien accru des donateurs pour les civils piégés par le conflit et éviter une aggravation de la crise. En Mauritanie, le parti islamiste Tewassul a annoncé jeudi la candidature de son leader à l'élection présidentielle qui se tiendra le 29 juin, marquant ainsi une première pour cette formation politique. Lionel Lounanila Gahima.
Hamadi Oul Sid El Mokhtar, président du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement, également connu sous l'abréviation Tewassul, devient le premier candidat officiellement investi par ce parti islamiste depuis sa législation en 2007. Premier parti d'opposition au Parlement mauritanien avec 11 députés sur 176, Tewassul avait soutenu des candidats hors de ses rangs lors de précédentes élections présidentielles. Tewassul explique dans un communiqué avoir décidé de présenter un candidat au terme d'un long débat qui a conclu à la nécessité d'un changement de la situation déplorable dans laquelle le régime a plongé le pays. Le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, élu en 2014, a annoncé le 24 avril sa candidature pour un deuxième mandat. Un peu moins d'une dizaine d'autres prétendants ont pour l'heure annoncé leur candidature, dont le militant pour les droits humains Biram Ouldada Ould Abeid, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. La campagne électorale débutera officiellement le vendredi 14 juin à minuit et se terminera le jeudi 27 juin à minuit.
Dans un communiqué diffusé jeudi, l'armée nigériane a déclaré que deux de ses membres seront traduits en justice devant une cour martiale près de 5 mois après une attaque de drone et accidentelle ayant entraîné la mort de civils dans le nord-ouest du pays. Rosine Mounezer.
Les deux militaires vont être présentés devant la cour pour être jugés après le bombardement de civils en décembre dans le village de Tudunbiri, dans l'état de Kaduna, alors que les habitants célébraient la fête musulmane du Maulid. Il est clair que cet accident était une erreur. Les victimes de l'attaque ont été prises pour des terroristes, a indiqué l'armée, précisant qu'elle prendra des précautions supplémentaires à l'avenir. Cette attaque avait fait 85 morts et 66 blessés, selon les chiffres avancés à l'époque par les autorités. Au lendemain de l'accident, l'armée avait déclaré que son drone était utilisé dans le cadre d'une mission de routine et qu'il avait touché par inadvertance des habitants, avant de préciser plus tard que les villageois avaient été confondus avec un groupe armé présent dans la région. L'affaire avait fait grand bruit dans le pays et à l'international. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu avait ordonné l'ouverture d'une enquête et les Nations Unies avaient demandé à Abuja que cette enquête soit approfondie et impartiale et que le gouvernement demande des comptes aux responsables et octroie des réparations aux victimes et à leurs familles.
Le président du Libéria a signé jeudi un décret marquant une étape majeure vers la création d'un tribunal qui jugerait les crimes des guerres civiles réclamés par les victimes depuis la fin des atrocités il y a plus de 20 ans. Environ 250 000 personnes ont perdu la vie lors des deux guerres civiles qui ont déchiré le pays entre 1989 et 2003. Au Soudan, 2 chauffeurs du CICR ont été tués et 3 employés blessés par des hommes armés jeudi dans la région du Darfour Sud, a annoncé le CICR dans un communiqué à Genève. L'équipe revenait de l'AIBA pour évaluer la situation humanitaire des communautés touchées par la violence armée dans la région lorsque le drame s'est produit. Le Kenya et la Tanzanie sont confrontés à l'arrivée du cyclone Idaya après des pluies torrentielles qui ont dévasté l'Afrique de l'Est, provoquant la mort de plus de 350 personnes et poussant des dizaines de milliers d'autres à quitter leur foyer. Les Émirats arabes unis ont envoyé 80 tonnes d'aide humanitaire au Kenya. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont émis des alertes à destination des voyageurs au Kenya, demandant à leurs ressortissants de faire preuve de prudence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit profondément bouleversé par la perte de vies humaines dans des inondations au Burundi, au Kenya, en Somalie, en Tanzanie et dans d'autres pays de la région.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Royaume-Uni, les défenseurs des demandeurs d'asile se mobilisent pour s'opposer aux arrestations et aux transferts de migrants. Le gouvernement conservateur envisage de procéder à des expulsions massives vers le Rwanda à partir de cet été, ce qui suscite de vives inquiétudes parmi les défenseurs des droits des migrants. Mohamed Oumfa.
À Londres, des dizaines de personnes se sont rassemblées pour bloquer un car qui devait transporter des migrants vers le Bibi Stockholm, une barge amarrée dans le port de Portland, dans le Dorset, où sont déjà hébergés des centaines de demandeurs d'asile. 45 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Selon l'agence de presse britannique PA, les demandeurs d'asile ont été débarqués du bus et n'ont pas été transférés. Ces derniers jours, d'autres rassemblements semblables ont eu lieu à Glasgow ou près de Nottingham, à proximité des centres d'immigration du ministère de l'Intérieur. À Margate dans le Kent, des manifestants ont réussi à faire reculer le gouvernement après avoir bloqué la semaine dernière le départ des cars affrétés pour leur transport. Downing Street a réagi, évoquant des actions inacceptables. Alors que le nombre des traversées de la Manche par les migrants a battu un record historique en ce début d'année, le gouvernement britannique veut expulser d'ici à la fin de l'année un groupe déjà identifié de 5700 personnes, malgré les appels de l'ONU ou du Conseil de l'Europe à abandonner son projet.
Le président Joe Biden s'est exprimé jeudi sur les manifestations agitant les campus universitaires américains contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, lançant un rappel à l'ordre, dit Lidico.
La police a démantelé manu militari à un campement érigé à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, par des étudiants et interpellé des dizaines d'entre eux aux premières heures jeudi. À 6 mois des élections, dans des États-Unis polarisés, le président démocrate s'est engagé sur cette question susceptible de plomber sa campagne en affirmant que l'ordre devait prévaloir. « Nous ne sommes pas un pays autoritaire qui réduit les gens au silence », a néanmoins assuré Joe Biden lors d'une courte allocution. Jeudi matin, son adversaire Donald Trump l'a accusé d'inaction face au mouvement pro-palestinien. Ce sont des tarés de la gauche radicale et il faut les arrêter maintenant parce que ça va durer et empirer, a-t-il lancé à son arrivée au tribunal de New York où il est jugé dans un procès inédit. Depuis le 17 avril, une vague de mobilisation pour les Palestiniens de Gaza déferle sur les campus d'une quarantaine d'universités américaines, rappelant les manifestations contre la guerre du Vietnam. La police, qui est intervenue à plusieurs reprises, a arrêté des centaines de manifestants.
L'UNESCO a attribué jeudi son prix mondial de la liberté de la presse à l'ensemble des journalistes palestiniens couvrant Gaza, décimés depuis plus de 6 mois par l'offensive israélienne sur ce territoire consécutif à l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël. Vous suivez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nanit Talani.
Une grande partie du Kenya a été plongée dans l'obscurité ce jeudi en raison d'une perturbation de l'approvisionnement en électricité, a annoncé la Société kenyane d'électricité et d'éclairage, ajoutant qu'elle s'efforce de rétablir le service normal dans les plus brefs délais. À l'aéroport Jomo Kenyatta, des services tels que l'immigration et le contrôle des bagages ont été interrompus en raison d'une panne du générateur qui desservait les principaux terminaux. L'Égypte et une société australienne ont conclu un accord pour la location de l'unité flottante de stockage et de regazéification Hog Galleon afin de soutenir la sécurité énergétique des Égyptiens et garantir les besoins supplémentaires de consommation intérieure. Pour terminer, la seule mine de nickel en activité du Zimbabwe, Trojan, a été placée ce jeudi sous administration, selon un avis du gouvernement, 7 mois après l'arrêt de la production en raison d'une panne d'équipement et de la faiblesse des prix.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Football pour commencer, le club marocain de la RS Berkane s'est qualifié jeudi en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football après le forfait de son adversaire, l'équipe algérienne de l'USM Alger, a annoncé la CAF. L'instance panafricaine a attribué la victoire à la Renaissance sportive de Berkane 3-0 au match retour qui était prévu dimanche dernier après lui avoir déjà attribué la victoire à l'aller sur le même score. Aucun des matchs n'a été disputé. Les joueurs d'Alger ont refusé de jouer les demi-finales en raison d'indifférents sur le maillot porté par les Marocains, incluant le Sahara occidental. Avec toi Yacouba, on va parler du cyclisme avec l'avant-dernière étape du Tour du Bénin qui se court ce vendredi.
Oui, cette avant-dernière étape se court entre Wini et Porto Novo, distance 97,170 km, la plus petite distance du tour. Hier, c'est un Français de la team Born 1, Victor Lebon, qui s'est imposé à Atiémé. Après 113,800 km de course au départ de Djidja, il a franchi la ligne d'arrivée au sprint en déposant respectivement l'Algérien Islam Mansouri et le Burkinabé Wahabou Bouda. L'Érythréen Yohel Habtehab garde le maillot jaune à 2 secondes de l'Algérien Azedine Lagab. L'arrivée finale est prévue pour demain samedi à Cotonou.
Et 36 athlètes vont représenter l'équipe des réfugiés au JO 2024.
36 athlètes venus de 11 pays vont composer l'équipe olympique des réfugiés au JO de Paris dans l'espoir d'apporter sa première médaille à cette entité venue du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo, d'Érythrée, d'Éthiopie, du Cameroun, entre autres. Ces 23 hommes et 13 femmes défileront sur la scène juste derrière la Grèce lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet devant toutes les autres délégations.
Le PSG a annoncé une rupture du ligament croisé pour Lucas Hernandez.
Touché au genou gauche lors de l'ouverture du score de Niklas Füllkrug pour Dortmund 1-0 à la 36e minute contre le PSG en demi-finale aller de Ligue des Champions, le défenseur international français est revenu quelques instants sur le terrain. Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. À quelques semaines de l'Euro 2024 en Allemagne, il avait déjà dû quitter l'équipe de France au début du Mondial 2022 au Qatar, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du premier match de phase de groupe contre l'Australie.
La page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. De retour avec vous, Eric Manirakidza, pour aborder les dossiers du jour. Mardi dernier, la cité minière de Rubaya, située dans l'est de la RDC, est tombée sous le contrôle des rebelles du M23 après de violents affrontements avec l'armée congolaise, épaulée par des miliciens Wazalendo. Eddie Isango a joint à Goma Jean-Claude Bouma, le coordinateur du Cercle national de réflexion sur la jeunesse à Massissi.
Pour le moment, la situation est tellement grave. Les habitants de Rubaya vivent comme s'ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Ils traversent des moments douloureux, des moments d'humiliation, des moments d'otages. Ils sont pris en otage par les rebelles du M23.
Est-ce que les activités se poursuivent comme d'habitude parce que la cité de Rubaya est une cité minière,
hein? Oui, la cité est minière. Alors pour les populations civiles, toutes les activités ont cessé parce que depuis ce mardi-là, les habitants s'enferment chacun dans sa maison pour certains. Et beaucoup d'autres ont décidé de quitter la cité pour chercher un autre endroit où ils peuvent se mettre sous l'abri. Toutes les activités des populations ont cessé. Alors, ce qui reste, ce sont des activités minières que les M23 vont devoir faire parce que c'est l'un de leurs objectifs, prendre Rubaya, pour exploiter tous les sites miniers qui sont dans Rubaya et autour de Rubaya.
Il y avait déjà des combats depuis quelques temps autour de Rubaya, mais quel est l'enjeu, quelle est l'importance de cette cité de Rubaya?
Il y avait des combats autour de Rubaya et même l'année passée en 2023 et 2022, les M23 avaient contrôlé pendant quelques heures la cité de Rubaya, mais ils se sont retirés. Ils y reviennent aujourd'hui avec le principal objectif, c'est l'exploitation des minerais et d'autres ressources naturelles qui sont dans cette zone de Rubaya, parce que la zone de Rubaya est tellement riche, son sous-sol est tellement riche. Alors, pour le Rwanda et tous les alliés du M23, la cité de Rubaya attise des convoitises. Donc, la cité de Rubaya, c'est toutes les choses qui sont dans cette cité, les sous-sols et son sous-sol, attisent des convoitises. Et dans ce cas-là, pour eux, la solution, c'était récupérer Rubaya afin qu'ils exploitent librement, tranquillement, tous les sites miniers existants dans Rubaya.
Quels sont les minerais qu'on extrait de cette cité de Rubaya?
À Rubaya, il y a plusieurs types de minerais, mais notamment, il y a les coltans et la cassitérite, principalement exploités à Rubaya. Et d'autres minerais, aujourd'hui recherchés pour des industries avec la nouvelle technologie. Malheureusement, nous déplorons parce que le Rwanda, à travers le M23, exploite tous ces minerais, mais les consommateurs finaux, c'est de la communauté internationale.
Jean-Claude Bouvouma, coordonnateur du Cercle national de réflexion sur la jeunesse à Massissi.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
La tension monte au Tchad alors que la date de l'élection présidentielle du lundi 6 mai approche. Succès Matra, ancien opposant devenu Premier ministre, a appelé ses partisans à filmer les procès-verbaux des résultats électoraux dans les bureaux de vote après leur publication. Cependant, cette initiative a été interdite par un communiqué de l'Agence nationale des élections. Pendant ce temps, la compétition présidentielle semble se concentrer sur Succès Matra et le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui échange des propos acerbes. Yacouba Ouédraogo a joint à N'Djamena le politologue Evariste Ngarlem Toldé.
À quelques jours de la fin de la campagne, et surtout à quelques jours de l'élection, on a pu entendre des tons montés de part et d'autre des candidats. À les concurrents, c'était des pics. Et on a comme l'impression que ce qui était considéré avant comme un simple jeu amical entre les joueurs d'une même équipe est en train de se transformer en un affrontement entre 10 joueurs dont 2 sont les plus favoris.
Qui sont ces deux les plus favoris?
Les favoris sont naturellement les deux chefs de l'exécutif qui sont le président de transition et son premier ministre chef de gouvernement. Alors les deux ne se sont pas fait cadeau parce que le président de transition n'a pas manqué d'attaquer ses deux premiers ministres, notamment l'actuel, et puis les deux autres aussi l'ont réputé. Ce qui a fait monter un peu le ton et demander à l'Agence nationale de gestion des élections de rappeler à l'ordre les différents candidats, de rappeler au respect des codes de conduite qu'ils ont unanimement accepté et signé. Donc ça a fait un peu, je ne dirais pas baisser la tension, mais tempérer un peu les ardeurs des uns et des autres.
Et justement, l'Agence nationale de gestion des élections a sorti un communiqué interdisant aux électeurs et aux observateurs de filmer les résultats après dépouillement. Est-ce que cela est légal?
La seule différence, c'est l'affichage effectivement des résultats qui figuraient dans l'ancien code électoral et qui, curieusement et miraculeusement, a disparu de l'actuel code. Autre observation, c'est que parmi les candidats, je crois qu'il y a 8 qui sont représentés au Conseil national de transition qui fait figure aujourd'hui de l'Assemblée nationale du Tchad. Ceux-là ont laissé passer ces dispositions, c'est plutôt par rapport à l'affichage des résultats dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, c'est quand même curieux qu'on évoque ou qu'on interdise quelque chose qui ne figure pas sur le code électoral. Le code électoral est le plus silencieux qui fait passer des choses. Donc, ce qui n'est pas interdit, mais est autorisé. Ce qui n'est pas interdit, est permis. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi on interdise aux représentants des partis politiques de filmer les résultats d'une part et d'autre part. Comment vont travailler les états-majors des partis politiques à la clôture des bureaux de vote? Ils sont tenus d'avoir les résultats pour d'abord vérifier de leurs candidats, d'une part, et même les électeurs doivent aussi avoir confiance au dépouillement des résultats et doivent voir les résultats être affichés au bureau de vote.
Justement, est-ce que ce communiqué entache l'impartialité de l'Agence nationale de gestion des élections?
Absolument, ça je ne vous le fais pas dire. Comment l'Agence peut attribuer un rôle qui n'est pas le sien? Dès l'instant où cette disposition ne figure pas sur le code électoral, il n'appartient pas à l'agence d'inventer, d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se trame aujourd'hui et tous les Tchadiens aujourd'hui ont l'impression qu'il y aura nécessairement une crise post-électorale par rapport à tout ce comportement qui ne sera pas indépendant des institutions qui ont en charge le processus électoral, notamment l'ANJE et son président.
Le politologue Évariste Ngarlem-Toldé. VOA Afrique a tenté de contacter l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad pour obtenir des réponses concernant la controverse entourant les procès-verbaux d'où l'élection présidentielle du 6 mai, mais n'a reçu aucune réaction de leur part.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le 3 mai de chaque année, les médias à travers l'Afrique et le monde entier célèbrent la Journée internationale de la liberté de la presse. Au téléphone de Georges Léonard Sagno, le directeur de publication du quotidien béninois Le Patriote, basé à Cotonou, met en lumière les conditions de travail extrêmement difficiles auxquelles font face les journalistes dans son pays. Suivez Marcel Zoumenou.
La presse béninoise se porte très mal. Elle se porte très mal.
Pourquoi et comment?
Elle se porte très mal parce que d'abord, le premier élément sur lequel je me base pour le dire, c'est le classement de RSF. De 2016 à 2023, on est passé de la 118e place à la 112e place. Donc un recul de près de 34 places. Et je dois dire que ce recul est le recul le plus grand que nous avons eu en 8 ans depuis 1991 que le Bénin est devenu un pays démocratique. Et je rappelle que en 2005, le Bénin était le premier pays en Afrique en matière de liberté de presse, 26e dans le monde et premier en Afrique en matière de liberté. Et ça, c'est des lointains souvenirs.
Qu'est-ce qui explique ces reculs, selon vous?
Qu'est-ce qui explique ces reculs qu'on a ces derniers temps-ci? C'est lié à la politique du gouvernement actuel vis-à-vis du secteur des médias. Le premier indice de cette politique,
c'est que tous les journalistes vivent comme des prisonniers ambulants. Tout au moins les journalistes qui osent dire des choses qui gênent sont automatiquement poursuivis, arrêtés. J'étais en prison et après, il faut la pression internationale pour que le gouvernement puisse les relâcher. Et là, ça se fait hors procédure parce que le Code de l'information et de la communication a précisé clairement la procédure en matière de délit de presse. Mais aujourd'hui, le gouvernement, depuis 2017, a adopté un code qu'on appelle Code du numérique qu'il utilise comme une épée de Damoclès pour frapper tous les journalistes. Une fois que tu dis quelque chose qui gêne, il y a une plainte qui est envoyée, pas devant un tribunal, mais une brigade de police qu'on appelle l'OCRC, Office de répression de la cybercriminalité, et qui vient te chercher chez toi sans mandat, sans convocation. Tu es écouté et puis tu vas devant le procureur et souvent tu es condamné. Et donc la majorité des journalistes qui ont eu maille à partir ces dernières années au Bénin ont été poursuivis et condamnés sous cette procédure qui est une procédure illégale. Je rappelle qu'en matière de délit de presse, c'est le code de l'information et de la communication qui devait être appliqué. Le deuxième élément, c'est ce que j'ai appelé le manque de liberté économique, parce que si vous voulez être vraiment libre, il faut que vous soyez libre et plus économiquement. Le gouvernement actuel a suspendu l'aide de l'État à la presse privée, qui est une aide qui a été instaurée depuis le président Sérékou et qui vise à appuyer les médias du service privé.
C'était le journaliste béninois Marcel Zoumenou à Cotonou. La presse guinéenne est de plus en plus sous le feu des autorités de Conakry qui imposent des restrictions sévères à plusieurs médias, les plongeant dans une lutte pour leur survie. Face à cette répression croissante, certains se sont regroupés sous la bannière de la résistance, formant ce qu'ils appellent les médias brouillés. Ils ont lancé une série d'émissions télévisées synchronisées, une tactique visant à continuer à dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un recul alarmant de la liberté d'expression en Guinée. Les précisions de notre correspondant Zakaria Camara.
Ces salles de rédaction sont vides depuis plusieurs mois pour cause des restrictions les empêchant de fonctionner normalement. Pour les journalistes, c'est la galère.
C'est ma dignité qui a été bafouée depuis 7 mois. Depuis 7 mois, je pleure. Je pleure parce que je suis non pas sans salaire, mais je n'écoute pas mes auditeurs.
7 mois de galère, le matin quand on se lève, et parfois vous regardez vos enfants et qui vous demandent le prix du déjeuner, vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de ressources.
4 médias sont frappés par ces restrictions. Certains ont été retirés du bouquet Canal+, d'autres ont vu leurs signaux brouillés. Une situation qui dénonce le syndicat de la presse guinéenne.
Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle du Guinée.
Nous sommes à plus de 500 emplois perdus à Conakry à l'intérieur du pays, justement à cause de ces actions liberticides. C'est malheureux.
Pour se faire entendre, les 4 médias coproduisent une émission intitulée Les Brouillés.
Mamadou Diallo est l'un des animateurs de l'émission.
On a mis en place cette émission qu'on appelle les médias brouillés de Guinée et qui passe tous les vendredis pour que cela constitue le front commun de la résistance à la persécution que ces médias vivent. Et c'est pour cela que cette émission existe, parce qu'elle est reliée en même temps par ces 4 médias.
Les autorités guinéennes justifient ces restrictions par des raisons de sécurité nationale. Les associations de presse guinéennes ont sollicité une audience avec le président de la transition. Elles auront enfin l'occasion de convaincre le général Mamadi Doumbouya.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakidza à son micro. Firmin Kouyaweda a assuré la production et la réalisation. À la console, Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.